Voici d'abord les deux textes liturgiques de ce 17e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous conjure, moi qui suis dans les chaînes pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés par votre vocation à une seule espérance. Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême. Il n'y a qu'un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit partout et demeure en nous tous. Béni soit-il dans les siècles des siècles. Amen. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus, et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, lui demanda pour le tenter, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. C'est là le plus grand, le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Dans ces deux commandements sont contenus la loi et les prophètes. » Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur fit cette question. « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ?»« De David, lui répondirent-ils. » « Comment donc, leur dit Jésus, David qui était inspiré, l'appela-t-il son Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait lui répondre. Un seul mot, et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. » Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, saint Paul, dans l'épître d'aujourd'hui, nous parle de notre sanctification. C'est la phrase de début de l'épître. De se comporter d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Il ne parle pas simplement de la vocation religieuse, il parle de la vocation en général. Quelle est notre vocation générale ? La vocation de l'homme sur la terre, c'est sa sanctification personnelle. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver notre âme. Donc notre vocation, c'est notre travail de sanctification. Et donc le lien avec l'évangile d'aujourd'hui est évident. Comment on se sanctifie ? Comment nous sanctifions-nous ? Nous sanctifions d'abord, évidemment, par le respect des commandements du bon Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne suit pas sa loi. Et nous dit l'évangile d'aujourd'hui que toute la loi est résumée dans le premier commandement. C'est un commandement un peu complexe parce que le Seigneur le dit lui-même. D'ailleurs, les deux premiers commandements sont unis. Le premier commandement, en fait, nous dit trois choses. Qu'il y a un seul vrai Dieu, qu'il faut adorer, qu'il y a une foule de faux dieux qu'il ne faut pas adorer, qu'il faut rejeter, et qu'il faut aimer son prochain comme soi-même pour l'amour de nous, comme pour l'amour du bon Dieu. Et c'est dans ce triple devoir que consiste notre sanctification. Adorer le vrai Dieu, mettre dehors les faux dieux, et aimer le prochain pour aider le prochain à aimer Dieu comme Dieu veut être aimé. Le premier devoir, c'est donc l'adoration du vrai Dieu. C'est quand même ahurissant que Dieu nous dise « Vous devez m'adorer » alors qu'on lui doit tout. C'est lui qui nous a créés, il a créé le ciel et la terre. C'est lui qui, pour rattraper le péché, a pris notre nature humaine, a voulu mourir sur la croix le vendredi saint. C'est lui qui a monté au ciel pour nous préparer une place là-haut. Donc Dieu est notre créateur, il est notre roi, il est notre rédempteur. Évidemment qu'on doit l'aimer, qu'on doit l'aimer. Imaginez aussi que Dieu soit, si on comprend que Dieu soit par exemple obligé de nous dire aimer et honorer votre père et votre mère. C'est du bon sens élémentaire qu'il nous faut aimer nos parents ici-bas, aider nos parents ici-bas et les respecter en tant qu'enfants de la même façon qu'il nous faut évidemment aimer encore plus et adorer cette fois-ci notre père au ciel puisqu'il est Dieu. Donc notre premier devoir c'est d'adorer le vrai Dieu. Et puisqu'on adore le vrai Dieu, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas supporter l'idée même qu'on puisse adorer un faux Dieu. On le voit très bien dans l'Ancien Testament. N'oublions pas que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même, il n'y en a pas, il n'y en a pas deux. On voit très bien comment le peuple juif est tombé constamment dans ce péché d'adoration des faux dieux. Il faut voir comment ils ont été punis par le bon Dieu. C'est toute l'histoire du veau d'or, on peut dire des veaux d'or, parce que des veaux d'or, malheureusement, les juifs en avaient plein. Et constamment, dès que les prophètes, les chefs politiques et les chefs religieux, surtout comme Moïse par exemple, avaient le dos tourné, tout de suite le peuple juif retombait dans ce péché, le péché d'idolâtrie, d'adoration des faux dieux. Et c'est très important à comprendre ces choses-là, parce que on voit très bien dans les saints évangiles que Dieu ne peut pas supporter l'adoration d'un faux Dieu. Dieu est un Dieu jaloux qui ne supporte pas qu'on puisse adorer quelqu'un qui se présente comme Dieu et qui ne l'est pas. Donc on oblige en quelque sorte Dieu à nous frapper de son bras vengeur dans ce sens-là, justement parce que nous adorons quelqu'un qui n'est pas Dieu. Et le démon sait ça. Le démon a très bien compris que Dieu ne peut pas supporter un faux Dieu. Qu'est-ce que fait le démon? Le démon va donc travailler, faire des heures supplémentaires pour faire rentrer dans notre âme, dans notre intelligence surtout, un faux Dieu. Il en suffit d'un. Pas vraiment faire rentrer une dizaine. J'ai vu que le démon arrive à faire rentrer dans notre intelligence un veau d'or, même un petit veau d'or. Dieu s'en va tout de suite. Et c'est ce que fait le démon. Et on le voit très bien aujourd'hui dans le monde moderne, comment le démon, donc, d'une façon ou d'une autre, essaie simplement de faire rentrer dans l'âme, surtout dans l'âme des enfants, un faux Dieu. Un petit démon, un petit veau d'or, et tout de suite Dieu s'en va. Évidemment, si Dieu s'en va, il a sa place libre. Et donc le démon peut à ce moment-là revenir avec 7 démons pires que lui, la situation de cette pauvre âme devient pire que jamais. Et une fois qu'on a compris ça, on prend tout le travail des parents, tout le travail d'éducation. L'éducation chrétienne, c'est quoi? C'est former nos enfants pour qu'ils n'adorent pas des faux dieux. C'est former l'intelligence de nos enfants pour que nos enfants puissent comprendre qu'ils ont reçu une intelligence pour atteindre le vrai. Le bon Dieu ne nous a pas donné une intelligence pour qu'on adore les faux dieux. Le bon Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on adore le vrai Dieu, l'unique vrai Dieu. Donc il y a unique vrai Dieu, ce que nous dit saint Paul, un seul baptême. Une seule vraie religion et des milliers de faux dieux, des millions de faux dieux. Le monde moderne est devenu un monde polythéiste. Ils adorent n'importe quel dieu. C'est ce que veut le démon. Encore une fois, si le démon a réussi à faire entrer un faux dieu, même un petit faux dieu, dans une âme, immédiatement le vrai dieu s'en va. D'où la troisième obligation qui provient du premier commandement, d'aider le prochain à adorer le vrai Dieu, aimer le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Encore une fois, on voit comment le démon, qui sait que la plus belle protection, la plus forte protection d'une âme contre le démon, contre lui, contre le démon, c'est le premier commandement, il va tout faire pour détruire le premier commandement dans l'âme des catholiques. Et donc, nous pousser à croire que le bon Dieu nous demande simplement d'aimer le prochain comme ça. Alors, il faut aimer tous les pauvres de la planète, il faut aimer la misère du monde. Mais ce n'est pas ça du tout que nous demande le bon Dieu. Le bon Dieu ne nous demande pas d'accepter dans notre pays tous les migrants de la planète qui meurent de faim à droite et à gauche. On a déjà suffisamment de gens qui ont bien les difficultés en France, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Mais qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? Le bon Dieu nous demande justement d'aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aider le prochain à ce que lui-même remplisse les commandements de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas, n'a jamais consisté à aider le prochain simplement pour des histoires matérielles. Pourquoi est-ce que les missionnaires sont partis pendant des siècles et des siècles à des pays impossibles pour amener notre Seigneur Jésus-Christ à ces hommes? Pourquoi ils partaient en Chine, ils partaient au Tonkin, ils partaient dans les pays impossibles au centre de l'Afrique, ils pourraient d'ailleurs, la plupart du temps, y mourir comme des mouches au bout de quelques années, pour amener notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Sortir notre Seigneur, sortir ces peuplades qui connaissaient pas le vrai Dieu, les sortir de l'adoration des faux dieux et leur donner le véritable Dieu pour qu'ils puissent nourrir véritablement leur âme et leur intelligence. Et aujourd'hui, tout ça a disparu. Donc on envoie des gens dans ces pays-là pour faire des puits, pour nourrir nourrir les corps. On nourrit les corps, on ne s'occupe pas de nourrir les âmes. On nourrit les corps et on détruit les âmes. Donc Dieu nous dit, attention, il faut aimer le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc à cause du premier commandement, nous sommes tous, moi le premier, tenus à l'égard de ceux dont nous avons la charge, directement ou indirectement, d'aider ceux dont nous avons la charge directement ou indirectement, encore une fois, à aller vers Dieu, donc à vivre en état de grâce. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à aider le prochain à vivre en état de grâce. Et si je remplis cette fonction, j'ai rempli mon devoir d'État. Donc malheur à ceux qui prétendent aimer le prochain et qui ne cherchent pas à aider le prochain à vivre en état de grâce. Imaginez un père de famille qui a plusieurs enfants. Et puis, les enfants sont grands, sont adultes, chacun menait sa vie. Il y a par exemple quatre enfants, il y en a trois qui sont mariés religieusement, il y en a un qui vit dans le concubinage. Est-ce que le père de famille ou la mère de famille, est-ce qu'ils doivent aimer tous leurs enfants? Bien sûr. Est-ce qu'ils doivent aimer tous leurs enfants de la même façon? Non. Parce qu'il y a trois des enfants qui, dans ce domaine, vivent en état de grâce et un qui vit dans le concubinage. Donc, est-ce que les parents ont le droit de dire égalité entre les enfants? Donc, on accepte la situation de l'enfant qui vit dans le concubinage de la même façon qu'on accepte les trois enfants qui, eux, vivent selon les règles du mariage chrétien? Bien sûr que non. Parce que les parents aiment leurs enfants, ils doivent refuser, justement, de considérer que leur fils qui vit dans le concubinage vit dans une situation qui est morale devant Dieu. Et les parents doivent à ce moment-là, justement, refuser la concubine de leur enfant et ne pas accepter une situation qui laisserait même à penser qu'il n'y a pas de différence entre le mariage pécamineux, le concubinage, et le mariage réel devant Dieu. Et c'est ça le crime du monde moderne. C'est que le crime du monde moderne laisse à penser qu'il faut prendre les gens tels qu'ils sont, les aimer tels qu'ils sont. Non, on aime les gens pour l'amour de Dieu. C'est bien ce que dit notre Seigneur. On aime les gens pour l'amour de bon Dieu, pour aider le prochain à monter vers Dieu. Donc aider le prochain à vivre un état de grâce. Si j'aide le prochain à rester dans le péché mortel, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans des sables mouvants, et au lieu de l'aider à sortir du sable mouvant, on appuie sur sa tête pour qu'il tombe encore plus vite, qu'il s'enfonce encore plus vite dans le sable mouvant. C'est pas la charité, ça. C'est là, au contraire, la destruction de la vertu de charité. Alors, bien, chers frères, si on creusait un petit peu, parce que ce sont des points qui sont beaucoup plus importants qu'on le pense, parce que lorsque le pape Saint Pédis a parlé dans son catéchisme de ce premier commandement, le commandement le plus important de la loi, donc il cite et il fait une liste des principaux péchés contre le premier commandement. Et il parle de l'idolâtrie, la superstition, du sacrilège et l'ignorance coupable des vérités de la foi et tous les autres péchés contre la foi. Et ce qu'il faut comprendre impérativement, c'est que à chaque fois que je commets une faute grave, je commets tous ces péchés à la fois. Pourquoi? Parce que le péché grave s'oppose directement au premier commandement. Tout péché grave, quel que soit son sujet, quel que soit l'objet de ce péché grave, à partir du moment où il s'oppose à la loi divine, s'oppose au premier commandement de Dieu. Donc à chaque fois que je commets un péché grave, je commets un péché d'idolâtrie, je commets un péché de sacrilège. Et je me maintiens dans une ignorance coupable pour rester dans le péché. Vous savez, quand vous n'avez pas le droit de dire ça, mais c'est exactement la réalité. Prenez le premier point, par exemple. Est-ce que chaque péché mortel, quel qu'il soit, est un péché d'idolâtrie? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le péché d'adoration d'un faux Dieu. L'idolâtrie consiste à enlever le vrai Dieu de notre âme et remplacer le vrai Dieu par un faux Dieu, quel qu'il soit. Ça peut être une bouteille de vin, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un faux Dieu. Donc tout péché mortel est un péché d'idolâtrie, parce que par chaque fois que je commets un péché mortel, encore une fois, quel que soit le sujet de ce péché mortel, je fais sortir de mon âme le vrai Dieu et je remplace le vrai Dieu par un faux Dieu, quel qu'il soit. Donc tout péché mortel comporte en lui-même la malice du péché d'idolâtrie. Vous savez comment Dieu punissait les idolâtres? dans l'Ancien Testament, il faut voir le travail. C'est la seule façon de comprendre des textes qui peuvent être choquants au niveau purement naturel, où Dieu, littéralement, a détruit tous les peuples idolâtres et a essayé de protéger son peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, pour l'empêcher de tomber dans l'idolâtrie. Dieu avait même dû établir des lois extrêmement sévères pour empêcher, par exemple, les hommes de son peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, d'épouser des femmes païennes, parce qu'ils savaient très bien que si les juifs épousaient des femmes païennes, ils allaient se mettre à adorer les faux dieux. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs à chaque fois. Et les juifs se sont lancés dans l'adoration des Astaroth ou des Belphégor, de tous les faux dieux, allant jusqu'à immoler leurs enfants au feu, comme faisaient certains faux dieux, qui n'étaient que des démons incarnés. Donc comprendre ces choses-là, à chaque fois que je commets un péché mortel, je suis responsable d'un péché d'idolâtrie. Et je viens de vous dire que Dieu ne peut pas supporter l'adoration d'un faux Dieu. Péché d'idolâtrie, c'est l'adoration d'un faux Dieu. C'est plus que ça. Le péché mortel, c'est aussi un sacrilège. Vous savez, vous êtes trop fort. Non, c'est pas une question de sévérité. Je ne suis pas trop sévère. C'est la réalité des choses. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrilège ? La profanation d'une chose sacrée. La profanation par des choses matérielles, je dirais, de quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. C'est ça le sacrilège. Donc le plus grand des sacrilèges, c'est quoi ? C'est la profanation de notre âme. Notre âme, pour nous catholiques, notre âme est marquée d'un caractère, le caractère du sacrement de baptême. En plus de ça, notre âme est souvent marquée d'un autre caractère, le caractère du sacrement de confirmation qui fait de nous des enfants de Dieu. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Le sacrement de confirmation, pardon, fait de nous des soldats de Dieu. Pour moi, prêtre, en plus, j'ai un troisième caractère, le caractère qui fait de moi ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, puisque votre âme a été marquée par le sacrement de baptême et par le sacrement de la Sainte Eucharistie, ça fait deux raisons pour lesquelles notre âme appartient à Dieu. Donc si j'enlève le bon Dieu de mon âme et je remplace le bon Dieu par un faux Dieu, c'est un sacrilège aussi. Parce que c'est la profanation d'une chose sacrée, c'est la profanation d'une chose consacrée. C'est exactement comme si j'ouvrais le tabernacle, je prenais les hosties consacrées dans le ciboire et que j'allais donner ces hosties consacrées à manger au cochon, c'est la même chose. Donc tout péché mortel contient en lui-même non seulement la malice du péché d'idolâtrie, mais également la malice du péché de sacrilège. Et on peut aller plus loin. Saint Pédis parle dans son catéchisme d'un troisième péché contre le premier commandement, l'ignorance coupable des vérités de foi. Et bien, à chaque fois que je commets un péché mortel, qu'est-ce que je fais ? Je mets mon catéchisme sur le côté. Je sais très bien que le péché mortel offense Dieu gravement. Je sais très bien que le péché mortel fait de moi un idolâtre. Je sais très bien que le péché mortel consiste en un sacrilège parce que je profane une âme qui a été rachetée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, une âme qui a été marquée par le baptême. Et malgré cela, je mets cette foi catholique, la connaissance de ma foi catholique qui m'est donnée par le baptême, mais aussi par l'étude du catéchisme, je mets tout ça dehors et je remplace cette connaissance véritable par l'amour de l'erreur, l'amour des choses fausses. Donc le péché mortel comporte aussi en lui, introduit aussi dans notre âme, avec le péché mortel, est introduit dans notre âme, l'ignorance coupable des vérités de foi. Ce qu'on appelle l'ignorance crasse, l'ignorance supine en théologie. L'ignorance crasse, il y a je ferme les yeux pour ne pas voir la vérité. N'oubliez pas que c'est à la limite péché contre le Saint-Esprit. Un des péchés contre le Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est justement le refus de la vérité connue comme telle. Quand j'ai commis une faute grave, je refuse la vérité connue comme telle. Je sais très bien que j'ai pas le droit de faire ce que je veux faire. Je sais très bien que l'action que je veux commettre est interdite par la loi de Dieu sous peine de péché mortel. Je sais très bien qu'en commettant un péché mortel, je remplis les trois conditions du péché mortel, matière grave, pleine connaissance, plein consentement. Je sais que c'est interdit par le bon Dieu, sous peine de péché grave, je sais que c'est une chose grave, mais ça fait rien, je le fais quand même. Eh bien, donc, à chaque fois que je commets un péché mortel, je commets un péché d'idolâtrie, un péché de sacrilège, et je commets le troisième péché dont parle Saint Pédis, l'ignorance coupable des vérités. Et le démon le sait. Voilà pourquoi le démon va littéralement tout faire pour nous pousser, si vous voulez, à nous, à nous maintenir dans cette adoration des cette adoration des faux dieux. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Prenez des exemples tout simples. Je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais prenez des exemples tout simples. L'adoration des faux dieux. Bon, tout de suite, quand on parle d'adoration des faux dieux, les gens disent « Ah oui, mais c'était à l'époque, ou dans les temps anciens, où les anciens adoraient le soleil, ou la lune, ou les étoiles. » Mais aujourd'hui, c'est encore plus bête que ça. Je peux comprendre d'une certaine façon qu'un païen, en voyant la puissance, par exemple, du soleil, puisse être tenté d'adorer le soleil à cause de la puissance du soleil. Les Aztèques, au Mexique, adoraient le soleil. Mais aujourd'hui, c'est pire que ça. L'homme moderne, il ne va pas adorer le soleil, qui serait déjà un acte d'idolâtrie épouvantable, mais au moins on pourrait un peu le comprendre. Qu'est-ce qu'ils adorent à la place du soleil? Ils vont adorer leur ordinateur, ils vont adorer leur corps, ils vont adorer le sport, par exemple. Je pense que les trois idolâtries qui sont certainement les plus fréquentes dans le monde moderne, c'est ça. L'idolâtrie, je m'excuse du terme, c'est le high-tech, des grandes techniques techniques d'électronique aujourd'hui. Ils adorent leur sport, le sport, ils adorent le corps. D'ailleurs, il y a un lien entre les deux dernières choses. Et quoi? Quand on transforme son ordinateur en Dieu, quand on adore son corps, quand on adore le sport, c'est un péché d'idolâtrie, c'est un péché de sacrilège, et c'est l'ignorance coupable des vérités de la foi dont j'ai impérativement besoin pour sauver mon âme. Et c'est pour ça que le démon pousse sur toutes ces choses-là. C'est pas un péché d'avoir un ordinateur. J'ai un ordinateur, et comme j'utilise mon ordinateur pour l'apostolat, je peux pas avoir un ordinateur à 150 euros. J'ai besoin d'un ordinateur avec lequel je puisse faire du travail sur les vidéos. C'est des ordinateurs qui coûtent cher. C'est pas un péché si c'est un outil pour justement le mettre au service du bon Dieu. C'est pas un péché en tant que tel de faire du sport. C'est pas un péché en tant que tel de s'occuper de son corps. On a d'ailleurs un devoir d'État de maintenir son corps en bonne santé. Prenez le sport par exemple. Est-ce que le sport est bon en soi? Oui. Le sport en tant que moyen de maintenir son corps en bonne santé est une bonne chose. Comment le démon a-t-il utilisé le sport, par exemple, pour en faire un dieu? Par deux moyens. D'abord par le professionnalisme, on ne fait plus du sport pour maintenir son corps en bonne santé, mais on fait du sport que pour gagner de l'argent. Et deuxièmement, par l'esprit de compétition. C'est-à-dire, je ne fais plus du sport pour maintenir mon corps en bonne santé, je pratique du sport pour gagner. Et là, c'est tout de suite l'orgueil qui s'en mêle, et le démon, qui est un malin parce que c'est le singe de Dieu, va transformer quelque chose de bon en soi, à savoir le sport, en quelque chose de mauvais, l'adoration du corps, l'adoration du sport, l'adoration du corps. Oui, mais bien cher frère, comme il faut justement faire extrêmement attention de nous rappeler que notre premier devoir d'État, notre premier devoir d'État, c'est de garder la vocation à laquelle nous sommes chacun d'entre nous appelés. Cette vocation, c'est la vocation de sainteté personnelle. Il n'y a pas de sainteté personnelle sans le respect du premier commandement, parce que le premier commandement est le commandement le plus important de la loi du bon Dieu. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Seigneur les grâces de lumière dont nous avons besoin pour arriver à comprendre toutes ces choses qui sont tellement importantes. On voit très bien aujourd'hui comment le démon est déchaîné, notamment contre le premier commandement, parce qu'il sait très bien, le démon il connaît son catéchisme bien mieux que nous, hein. Le catéchisme il le connaît très bien. Et il sait très bien que le but de la vie c'est le ciel. Le démon le sait mieux que nous. Et donc il va tout faire pour empêcher les gens d'aller au ciel. Parce qu'à chaque fois qu'une âme monte au ciel, ça fait une des places qui était avant occupée par les anges qui sont devenus les mauvais anges, une de ces places est occupée, et donc ça diminue encore un peu plus l'orgueil du démon, et ça rappelle au démon que Dieu est le grand patron. Donc rappelons-nous ces choses-là, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces grandes vérités de la foi catholique. Il ne faut pas avoir peur de les étudier. C'est pour cela qu'il nous faut, pour lutter justement contre ces péchés contre le premier commandement, les péchés d'idolâtrie, de superstition, les péchés de sacrilège, les péchés d'ignorance coupable de la vérité des vérités de foi. Il faut étudier et il faut utiliser les sacrements. La confession, la communion et l'étude. Connaître notre catéchisme, apprendre notre catéchisme. Au moins, je dirais, passer autant de temps à l'étude du catéchisme que nous passons à étudier les choses matérielles. Pourquoi? Parce que l'étude du catéchisme, c'est la base de la préservation en nous, dans nos âmes du premier commandement. Donc, étudions notre catéchisme. Je suis étonné de voir le nombre de catholiques qui se prétendent catholiques, qui veulent essayer de conserver la foi, et puis quand on leur demande, mais vous avez déjà ouvert un catéchisme depuis votre première communion, pratiquement ils ne l'ont jamais fait. Ayez tous chez vous, ceux qui m'écoutent sur Internet surtout, ayez chez vous au moins le catéchisme du Saint de Saint-Pédis de 1910, qui était d'ailleurs plus ou moins un catéchisme pour adolescents ou enfants en 1910, qui aujourd'hui est devenu un catéchisme pour adultes à cause de la diminution du niveau intellectuel dans nos pays modernes. Eh bien, étudiez votre catéchisme pour connaître votre foi et connaître les choses que nous devons pratiquer pour pouvoir monter au ciel. Alors passons par la très sainte Vierge Marie pour qu'elle nous aide à comprendre toutes ces choses et à les maintenir dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.